Chapitre 23. La maison au toit incliné se trouve dans les parties les plus anciennes de Gamlan Schwede, juste au sud de l'énorme salle de concert à Vichy Arena. La terrasse est figée dans le froid hivernal, les meubles de jardin scintillent de givre et un hamac rouillé se balance sur son crochet. Eric Maria Bark se tient devant une des grandes fenêtres à croisillons, les yeux rivés sur l'allée de gravier et le portail en fer forgé ouvert qui donne sur la rue. Il sent la chaleur du radiateur sur ses cuisses et le froid sur son visage à travers la vitre. Les notes douces du concert enchanteur de Miles Davis à Stockholm en 1960 résonnent dans les haut-parleurs du salon. Le pouls d'Eric s'accélère lorsqu'une voiture ralentit devant chez lui, mais il se calme lorsqu'elle passe son chemin et tourne chez le voisin, un chanteur d'opéra. Eric recule pour ne pas rester planté devant la fenêtre comme un grand-père solitaire. Le parquet en chêne verni grince sous ses pas alors qu'il se dirige vers la cuisine. Il regarde la table dressée et se demande si ce n'est pas un peu excessif d'avoir plié les serviettes en forme de sapin de Noël. Eric essaie de se convaincre qu'il a encore bonne allure malgré ses cheveux poivre et sel, ses cernes marquées sous les yeux et ses rides d'expression de plus en plus prononcées. Il est devenu un homme d'âge mûr, qui laisse derrière lui une traînée de lunettes de lecture où qu'il passe. Aujourd'hui, il porte une chemise bleu marine en jean, presque aussi épaisse qu'une veste, parfaite pour gainer et maintenir son ventre. Dans l'après-midi, il a fait le ménage, changé les serviettes et refait le lit. Il retourne au salon, regarde son téléphone et se retient d'envoyer un message à Moa. Sans vraiment s'en rendre compte, il retourne à la fenêtre juste au moment où sa voiture passe le portail. Elle le voit et lui fait un signe maladroit. Eric a rencontré Moa via une application. Ils ont échangé des messages pendant un bon moment avant de prendre un café ensemble à la gare centrale. La fois suivante, ils sont allés voir une exposition d'art contemporain chez Bukowski, ont fait semblant de vouloir enchérir sur une œuvre érotique, puis ont pris un verre dans un bar voisin. La dernière fois qu'ils se sont vus, ils ont dîné au restaurant Surfers et partagé l'addition. Maintenant, pour la première fois, ils vont se retrouver chez Eric. Elle lui a envoyé une recette et a promis de le guider pour réussir de parfaites pâtes à la truffe. Moa Nigord a travaillé comme chef de parti au Rich et cuisinière au Tranan, avant de déménager avec eux pour devenir sous-chef chez PM et Wehner, un restaurant étoilé. Elle a rencontré Bruno qui travaillait dans l'administration à l'université Linné et ils ont eu une fille ensemble. Moa a hérité de la maison de ses parents au nord de Stockholm et lorsque Bruno a décroché un poste à l'université Södertörn, ils ont emménagé dans la villa. Après une année de congé parental, elle a pris un poste de jour comme cuisinière au restaurant Bobergs Matsal. Moa a été honnête avec Eric sur le fait que Bruno est quelqu'un d'un peu difficile. Il n'a pas trouvé de logement malgré les 14 mois qui se sont écoulés depuis leur séparation. Elle lui permet d'habiter dans la petite dépendance dans le jardin et dit que Bruno pense encore que nous sommes ensemble, mais ce n'est pas le cas. Il le sait, c'est juste un idiot, mais je ne veux pas que ce soit trop compliqué pour Mathilda. Eric est déjà dans l'entrée, lorsque la sonnette retentit. Il attend un instant, puis s'inquiète qu'elle ait deviné sa silhouette à travers le verre des polis et ouvre aussitôt la porte. Moa porte une veste d'aviateur marron, doublée de peau de mouton. Ses cheveux blonds, coupés courts, sont coiffés de manière un peu punk, pointant presque droit vers le haut. « Tu as trouvé facilement ?» demande-t-il. « J'ai pris un Uber. » répond-elle en retenant son sourire. « Oui, j'ai vu ça. » Il récupère sa lourde veste, l'accroche sur un cintre, puis recule dans le hall en prononçant avec exagération « Entre donc !» Il tend la main pour l'inviter chaleureusement, mais renverse accidentellement un bouc de Noël en paille posé sur un meuble. Moa est vêtue d'un pantalon en cuir taille basse et d'un haut doré, ample et fluide, qui dévoile ses épaules et laisse entrevoir son ventre. Elle le suit jusqu'à la cuisine imprégnée de parfums de truffes noires, d'ail frais, de parmesan et de basilic, puis s'avance vers la table joliment dressée. « C'est beau, » dit-elle en touchant délicatement l'une des serviettes pliées du bout des doigts. « C'est bientôt Noël, » dit-il en sortant une bouteille du réfrigérateur. « Que penses-tu d'un ripasso ?»«
Très bon choix. »
Il ouvre la bouteille, verse deux verres, tend l'un d'eux à Moa et croise son regard vert.
Santé.
Santé, répond-elle avec un sourire qui dévoile ses canines pointues. Il goûte le vin tandis qu'Éric plaisante sur sa nervosité concernant la sauce aux truffes. Il dit avoir l'impression d'être un candidat face à son juge dans une émission culinaire.
Mais ça s'est bien passé ?
Demande-t-elle en regardant la sauteuse sur la cuisinière.
Je crois, enfin je sais pas trop, répond Éric gêné.
Le plus important est de se faire confiance. Un tatouage serpente depuis sa taille avec un motif en filigrane noir et blanc. Éric déplace le pot contenant les truffes noires scintillantes ainsi que celui rempli d'anchois huileux. Il essuie rapidement le plan de travail avec du sopalin avant de rincer quelques brins de ciboulette fraîche qu'il coupe dans la sauce pendant qu'elle goûte.
Délicieux, dit-elle en hochant la tête. Vraiment.
Mais personnellement, je pense que les pâtes ont besoin d'un peu d'acidité pour être sublimées, répond-elle.
Mais j'ai ajouté du vinaigre de vin rouge, explique-t-il. Je l'ai senti.
Il prend une cuillère propre et goûte la sauce.
J'ai oublié le citron, dit-il en attrapant un citron dans le panier et en râpant son zeste dans la poêle.
Elle le guide avec légèreté à travers les derniers ajustements de truffe et de sel avant qu'il ne mélange la sauce épaisse avec les rigatoni presque cuits dans un plat de service préchauffé et n'ajoute les feuilles de basilic par-dessus. Ils sont maintenant installés face à face devant le dîner. Éric leur resserre du vin et elle le complimente à nouveau pour son plat. Avec le coin de sa serviette, il essuie une trace crémeuse laissée par ses lèvres sur le bord du verre et prend un peu plus de pâte.
« Tu as de belles mains, » dit-elle en touchant brièvement l'une d'elles posée sur la table près du verre.
« Tu trouves ?» dit-il en les regardant comme s'il était étonné par le compliment.
« Comment s'est passée ta journée ? » demande-t-elle.
« Comme d'habitude, j'ai essayé d'écrire un peu, un article sur le message contradictoire de la voix dans mon domaine, apaisante, à l'écoute et en même temps autoritaire.
« Intéressant.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai terminé de lire une thèse en allemand sur l'hypnose et les hallucinogènes, qui était assez étrange. Et j'ai eu deux consultations.
« Des femmes ? »
demande-t-elle en posant sa fourchette.
« Oui. Je me demande, elles ne tombent pas amoureuses de toi ?
Non.
Quoi ?
Dit-elle surprise. Si c'était le cas, elle le cacherait bien.
Ou alors tu n'es pas très attentif aux signaux de ce genre,
répond-elle avec un sourire léger. Je crois que je le remarquerai.
Tu n'as pas remarqué que j'ai envie de t'embrasser ?
Très envie même.
Maintenant je rougis. Mais la vérité est que je suis devenu un peu prudent avec le fait d'interpréter certaines choses. Désolé, je ne sais pas ce que j'essaie de dire.
Tu essaies juste de changer de sujet, sourit-elle.
J'aimerais beaucoup t'embrasser, dit-il.
Mais
je ne veux pas trop me précipiter ou forcer quoi que ce soit.
Je suis heureux que tu sois là, que tu aies voulu me revoir. Tu es incroyablement attirante, vivante, intéressante. Et tu as des oreilles tellement mignonnes.
Mais
je ne suis pas comme tous ces gens fascinants que tu côtoies dans le milieu de la restauration avec des vêtements cool, des tatouages et des muscles.
Tu fais du sport maintenant, tu l'as dit.
C'est vrai. Ça se voit ?
Non, sourit-elle.
En tout cas, j'ai des courbatures terribles, gémit-il en se massant doucement une épaule.
Laisse-moi faire,
dit-elle en se levant. Éric voit sa poitrine bouger sous le tissu doré et détourne rapidement le regard. Elle contourne la table et il frissonne lorsqu'elle vient se positionner derrière lui. Ridicule ou pas, depuis qu'il a rencontré Moa, il a commencé à s'entraîner.
Il descend presque tous les jours dans l'ancienne salle de sport de son fils au sous-sol. Elle lui masse la nuque, pose ses mains lourdement sur ses épaules et presse ses muscles. « Aïe !» soupire-t-il.
« Ça fait mal ?»
demande-t-elle, l'air sceptique. « Rien de grave, mais... »«
Tu as peur de moi ?»«
Non. » Elle lui donne un baiser sur la joue par derrière, puis recule pour le regarder.
« Pas du tout ?»«
Je suis un dur à cuire, » dit-il.
« Tu n'en as pas l'air, » sourit-elle.
« Si, si, » essaie-t-il.
« On peut se mettre d'accord sur un mot quand tu veux que j'arrête, »
dit-elle sérieusement.
« Quoi ?»
Elle éclate de rire.
« Désolé, je plaisante. Je voulais juste te faire peur, » rit-elle en couvrant sa bouche avec sa main.
« Ok. Eric, je plaisantais, » assure-t-elle. Il attrape sa main et la presse doucement contre ses lèvres. Elle caresse sa nuque avec l'autre main et laisse ses doigts glisser lentement dans ses cheveux. Soudain, le portable d'Eric posé sur la table s'illumine et un SMS envoyé par Yuna apparaît sur l'écran. « J'ai besoin de ton aide. » Moa prend le téléphone et le tend à Eric tout en s'excusant d'avoir vu le message par accident, mais elle pense que c'est important.
« Merci. Un patient ?»«
Non, un ami qui travaille à la police criminelle.
Tu dois l'appeler.
Je le ferai demain.
De toute façon, je dois partir. Je me lève tôt demain matin, » dit-elle.
Le docteur Eric Maria Bark est spécialisé en psychotraumatologie et en psychiatrie de catastrophe. Pendant 4 ans, il a dirigé un projet novateur à l'Institut Karolinska, portant sur la thérapie hypnotique profonde en groupe, une méthode où plusieurs patients sont traités simultanément sous hypnose. Membre de l'European Society of Hypnosis, il est l'auteur d'un ouvrage de référence et est aujourd'hui reconnu comme l'une des plus grandes autorités mondiales en hypnose clinique.